des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour et bienvenue dans le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission placée sous le signe d'un thème passionnant, riche de fortune littéraire et d'ambiguïté. L'ambiguïté étant d'ailleurs ce qui le fonde, ce thème, ce motif, ce topos qui est celui du double. Le double qui éclot dès la Rome antique, il a même à l'époque son dieu, Janus, toujours représenté avec ses deux visages, l'un regardant, dit-on, vers le passé, l'autre vers l'avenir. Il a aussi sa pièce de théâtre, Amphitryon de Plaute, dans lequel un autre dieu, Mercure, prend la forme d'un esclave dénommé Sosie pour aider Jupiter à séduire la maîtresse de maison. Et puis ce thème, il trouvera sa forme achevée avec le romantisme allemand et la figure du doppelganger à la toute fin du XVIIIe siècle, sorte de double fantomatique de mauvais augure qui préfigure la mort et qu'on retrouvera ensuite chez Maupassant, par exemple, avec le Horla, chez l'Oscar Wilde du portrait de Dorian Gray, ou plus récemment dans Fight Club de Chuck Palahniuk. C'est un motif littéraire puissant, donc, que cet autre soi, cet alter ego, qui trouve dans deux textes d'aujourd'hui une nouvelle fécondité, Laurette de Laurence Nobécourt et L'art de revenir à la vie de Martin Page. Bonjour Laurence Nobécourt.
Bonjour.
Alors, je vous cite, elle, la vérité de mon nom, hein, pour les auditeurs. La vérité de mon nom me revenait comme le terrible labeur d'une pêche immense remontant à la surface de moi-même, tel l'un de ces obscurs animaux marins dont on ignore qu'on les abrite en soi, devinant, terrifiés, qu'ils séjournent dans des contrées impropres à l'homme et que nous avions jusqu'ici tenus loin de nous. C'est un extrait de Laurette, nouveau texte qui paraît après la démangeaison, après la conversation, après l'usure des jours ou après la clôture des merveilles. Des livres qui étaient signés non pas d'un autre nom, mais d'un autre prénom, prénom qui sert aujourd'hui de titre à votre livre. Laurette est publié chez Grasset. C'est en effet le premier livre que vous publiez sous votre nom d'état civil, Laurence Nobécourt, alors que vous aviez utilisé le pseudonyme de Laurette pendant près de 40 ans. Dans ce court récit, moins de 100 pages, vous développez d'une manière très dense, très puissante, les raisons de votre retour à votre prénom d'origine. On peut le lire comme une entreprise de justification personnelle, comme une affirmation de votre rupture avec à la fois votre passé et votre famille, riche en zones d'ombre. On peut le lire aussi comme une profession de foi dans l'amour et dans la littérature. Vous terminez d'ailleurs ce texte par un très beau poème où vous parlez de l'encre du langage et du temps des premières vies. S'agit-il aussi, Laurence Nobécourt, avec ce texte, de la mise à mort littéraire de ce double dont vous ne voulez plus et qui pourtant vous a fondé littérairement?
J'aime mieux l'idée que c'est, disons, un texte plus pour la littérature et qui va vers la joie. Et l'idée d'une mise à mort, dans le sens, oui, où la naissance est toujours issue de la mort de quelque chose, pour moi, c'est vraiment quelque chose de l'ordre d'une naissance publique et d'une seconde naissance, alors au sens presque... comment dire,
d'un baptême.
Oui, enfin voilà, l'idée de comme on peut voir dans tous les cheminements spirituels qu'à un moment donné, il ne suffit pas d'être né au monde pour naître à soi, et donc c'est vraiment de cet ordre-là.
Donc pas de mise à mort, hein, vous n'aimez pas le
non,
le
parce
terme.
Que en fait, si vous voulez, j'ai une tendresse et de l'empathie pour cette Laurette qui a vraiment fait de son mieux et qui m'a aidé, enfin voilà, et je la prends avec moi, si vous voulez, mais simplement, maintenant, elle est à sa place, et moi, à la mienne.
Bonjour Martin Page.
Bonjour.
Alors, très belle idée que celle qui enclenche votre nouveau roman, après Comment je suis devenu stupide, peut-être une histoire d'amour, de l'apiculture, selon Samuel Beckett, ou encore manuel d'écriture ou de survie, puisque vous imaginez un héros qui porte votre prénom, Martin, qui a votre âge, 41 ans, et qui, par une ruse de l'art contemporain, se retrouve face à un double, celui qu'il était quand il avait 12 ans et avec lequel il va se lancer dans une conversation à la fois passionnante, touchante, très existentielle. Ça s'intitule « L'art de revenir à la vie ». On parlait de nouvelle naissance avec Laurence Nobécourt. Ça paraît au seuil et ce livre est placé sous un quadruple patronage. Patti Smith, Rihanna, Thomas Vineau et Gilles Deleuze. Le Gilles Deleuze qui disait, dans une préface à « Psychanalyse et transversalité » de Félix Guattari, « Le livre doit être pris comme le montage ou l'installation, ici et là, de pièces et rouages d'une machine, parfois des rouages tout petits, très minutieux, mais en désordre, et d'autant plus indispensable, machine de désir, c'est-à-dire de guerre et d'analyse. » Est-ce que cet art de revenir à la vie, Martin Page, cette confrontation avec ce double de 12 ans, procède d'un désir donc conjoint de guerre et d'analyse ?
Ouais, c'est très ambitieux. J'aime beaucoup cette phrase de Deleuze parce qu'elle montre une belle ambition en fait vis-à-vis de la littérature. Quelque chose de. C'est une manière de dire que la littérature n'est pas quelque chose de respectable. Ça peut être un danger qui guette la littérature, qu'on en fasse quelque chose de domestiqué et de respectable. Et là, Deleuze dit oui, guerre et analyse. Et ça me va bien. Alors, c'est pas une guerre destructrice, évidemment. C'est une guerre qui construit. C'est une guerre de conquête
c'est
de soi.
C'est Schumpeter, quoi, la destruction créatrice.
Alors, je suis pas sûr que ça serait une de mes références. Mais j'aime cette idée, en tout cas, de combativité.
Quelqu'un rappelait justement qu'il y avait des destructions qui étaient destructrices. Hein, aussi.
Ouais.
Alors, merci à tous les deux de participer à cette émission consacrée au thème du double hein, et à vos deux textes. La fascination pour les figures doubles ou duels, je le disais à l'orée de cette émission, elle est très ancienne, elle est repérable depuis l'Antiquité. Alors, je trouve ça intéressant cette opposition entre, d'un côté, Janus, c'est-à-dire l'homme aux deux visages, et puis Sosie, finalement, où il y a une sorte de copie conforme d'un côté, comme si on devait choisir entre une démultiplication de soi-même, donc une copie quasi conforme, et puis finalement une autre acception du double qui ne serait qu'une partie de l'individu, comme s'il y avait un fragment, une moitié, un autre visage derrière. Alors je voulais vous demander à tous les deux comment vous conceviez votre double de papier. Est-ce que c'est votre doublure, au sens où les acteurs de cinéma ont parfois une doublure pour les remplacer, une doublure extérieure, ou est-ce que ce serait une moitié de vous, une sorte d'envers, de face cachée, comme la doublure cette fois-ci intérieur d'un vêtement. En gros, vous êtes plutôt Sosie ou Janus.
Martin.
Alors, c'est vraiment, mon Dieu, c'est une grande question. Je dirais que c'est un peu les deux. Je pense qu'à chaque fois, dans l'histoire de Laurence et dans la mienne, le surgissement du double a aussi des raisons. C'est pas un genre d'exercice intellectuel, on va dire. Moi, par exemple, mon premier double, c'est pas celui dans ce livre, c'est un double que j'ai créé qui s'appelle Pita Garmen.
Ouais. C'est un pseudonyme.
C'est un pseudonyme, ouais. C'est une anagramme de Martin Page et que j'ai créé dans un moment de fort trouble. Et donc, cette époque bizarre, nuageuse et trouble, ça a été un moment où j'ai eu besoin de m'inventer une créature qui serait moi, mais pas tout à fait moi, pour observer ce qui arriverait à Martin Page d'une certaine manière.
Petite question naïve, Martin Page n'est pas un pseudonyme.
Non, c'est pas un pseudonyme.
Voilà, pour un écrivain quand même s'appelait ouais. Page, c'est assez...
C'est quand même un peu banal.
Exactement. Mais par rapport à celui, je parlais aussi de ce double qui n'est pas justement signé de cet hétéronyme qui est Pete Agarben, c'est ça ?
Oui, Pete Agarben. Ouais.
Voilà. Il est signé Martin Page. Donc est-ce que, et pourtant il y a ce double de 12 ans, est-ce qu'on est plus dans un autre soi ou un sosie qui ferait d'autres choses que nous ?
Quand j'ai eu cette idée, j'imagine que c'est une manière un peu de... Mon travail, c'est d'avoir des idées de roman tout le temps, je travaille tout le temps à ça. Quand cette idée a surgi, je pense que c'était un moyen pour moi de résoudre un problème existentiel, en fait. C'est-à-dire une difficulté des difficultés que je peux avoir par rapport à mon passé. Bon, c'est assez courant. Et de se dire que j'allais entamer une discussion
Laurence
avec ce passé.
Laurence Nobécourt, oui. On va vous donner la parole.
C'est assez courant, oui, c'est ça.
C'était une manière de discuter, de me dire, voilà, je vais discuter avec mon passé et je vais essayer de le calmer un peu, en fait. Alors, ça, évidemment, ça se passe pas du tout comme je l'ai prévu, et heureusement.
Mais c'était discussion vraiment... avec son passé, c'est pas mal. Ça vous va bien, finalement, Laurence Nobécourt. Discussion avec le passé. Vous diriez que ça pourrait aussi caractériser ce nouveau livre, Laurette, donc qui, dans son titre même, porte l'enjeu.
Je dirais que le rapport au double, pour moi, l'idée, c'est d'aller vers l'unité. beaucoup d'entre nous sont divisés. Diabolo, c'est divisé, le diable, ça divise. Et comment réussir à faire en sorte que l'intériorité soit en accord avec l'extériorité? On est tous comme ça, plus ou moins à la recherche d'un sentiment de cohérence et d'unité, il me semble. Et ce travail-là, de Laurette, ce livre-là, c'est vraiment un tout petit livre qui, pour moi, dit un très long chemin, qui était comment récupérer son enfant intérieur, récupérer sa propre vie, son destin, son nom, tout ça, ça va ensemble. Et le travail de la littérature, ce en quoi elle est totalement magique, c'est que elle a une puissance alchimique de transformation de l'être. Et moi, j'aime beaucoup aussi la phrase de Deleuze que Martin Page cite, et cette idée de combat,
de guerre et d'analyse.
Oui, de guerre, d'analyse et de quelque chose qui n'est pas domestiqué, que la littérature, c'est sauvage, quoi. C'est vraiment pour faire de nous des êtres libres. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas moins que ça, pour moi, la littérature.
Et donc, on serait plus, si on reprend cette image de Janus, ça serait faire coïncider, en fait, les deux faces, en fait.
Oui, on sent bien soi-même quand il n'y a pas de moment plus délicieux et plus merveilleux que le moment où on est dans un accord intérieur et extérieur, quand le désir qu'on a à l'intérieur, eh bien, le geste qui le poursuit, qui l'accompagne, concorde, quoi. C'est vraiment
Une très belle phrase que je trouve qui rejoint un peu ça dans le livre de Laurence. Je cite « Et c'est ainsi que j'ai cheminé au point d'éprouver en moi-même une demeure ». Voilà, ça donne, je pense, un peu une idée du ton.
Oui, un espace intérieur, et qui est celui, alors moi j'appelle ça l'enfant aux cheveux blancs, c'est-à-dire c'est cet être en soi que la vie ne peut pas réellement altérer, qui reste intact et qu'on fait ou pas l'effort d'aller retrouver. Mais j'ai la sensation, parce qu'on est, quand on est enfant, on a une sorte d'innocence, mais qui est souvent liée à l'ignorance, même si je pense qu'on arrive avec des consciences différentes.
C'est le même mot, d'ailleurs, étymologiquement. Ouais, je sais que vous êtes très sensible à l'étymologie. C'est celui l'innocence. L'innocent est celui qui ne sait pas.
Et justement, l'enfant aux cheveux blancs, c'est... Moi, j'ai la conviction qu'on peut récupérer l'innocence par l'expérience, pourvu qu'on se donne un peu... de mal, quoi. Enfin, je veux dire.
Et la littérature est une. J'ai pas utilisé, on parlait de guerre, mais est une arme pour
ça. Ah oui, oui, pour moi, oui. C'est vraiment. L'écriture est un outil de connaissance de soi et donc du monde qui est prodigieux. Ça œuvre en soi, quoi. C'est vraiment.
Pourquoi ces cheveux blancs, d'ailleurs?
L'idée de. Des cheveux blancs comme l'endroit de. Quand on a beaucoup vécu. Vous voyez, ça y est, moi j'en ai maintenant, des cheveux blancs.
Et donc. Mais vous êtes blanc, voilà. C'est différent.
Voilà, c'est beau que l'expérience, l'idée de l'expérience puisse. En fait, nous faire rejoindre une forme d'innocence. J'en ai vraiment la conviction, et la vieillesse peut être un truc totalement merveilleux. C'est sûr.
Je vous citais, en vous présentant, je citais une phrase, hein, où au sujet de la vérité sur votre nom, qui vous revenait, en fait, vous disiez, comme le terrible labeur d'une pêche immense, remontant à la surface de moi-même, tel l'un de ces obscurs animaux marins dont on ignore qu'on les abrite en soi. Là, on a une bonne définition aussi du double.
Oui.
Comme une anomalie, comme un monstre à contenir, une sorte de péril intérieur.
Oui, puis c'était un double très souffrant, en ce qui me concerne. Et...
Laurette.
Oui, Laurette, c'était... C'était vraiment, moi j'ai été vraiment très bipolaire, enfin avec beaucoup de anti-suicidaires, etc. Et c'était étonnant quand je relisais, ça m'est arrivé après les carnets qui étaient les miens, en fait de m'apercevoir de cet état de souffrance que sur le moment je ne vivais pas forcément comme aussi dramatique. Et effectivement, il y a un moment donné où quand on sort finalement de cette ombre et qu'on prend un peu de distance et qu'on voit, c'est effarant, mais en même temps ça m'a pétri, voilà, tout est bien, voilà.
Martin Page, est-ce que vous pourriez imaginer un double de vous-même qui soit aussi existentiel? On reviendra sur le terme parce qu'il est important, Laurence Nobécourt, mystique aussi, hein, dans un très très beau terme qu'on explicitera, donc d'imaginer un double de vous-même qui soit riche de ces enjeux-là, de réconciliation. Vous parliez de dialogue tout à l'heure, vous.
L'idée, c'était, dans ce livre, c'était que je parte, que le personnage principal, Martin adulte, on va dire, part dans cette aventure avec une certaine arrogance, c'est-à-dire qu'il allait retourner vers son passé pour un peu expliquer la vie à son double. Et l'idée, pour moi...
De transmettre, hein, il parle de transmission.
Ouais, de transmettre. Mais je pense qu'il y a quelque chose chez lui d'un peu, peut-être, condescendant vis-à-vis de son jeune moi, comme je dis. Et l'idée, c'était justement de faire en sorte que cet enfant soit déjà un être complet, qui a des choses à dire sur la vie, qui soit pas en attente, en fait, d'une leçon de vie de la part de quelqu'un qui a presque 30 ans de plus que lui. Donc je voulais faire de ce jeune adolescent un personnage qui réplique, de mauvaise humeur, qui me met en difficulté en tant qu'adulte. C'est-à-dire montrer que c'est pas moi en tant qu'adulte qui vais apaiser cet enfant, mais c'est l'enfant qui a certainement des choses à me dire en tant qu'adulte.
Et pourquoi n'avez-vous pas choisi justement cet hétéronyme de Pete Hagerman pour ce livre-là? Qu'est-ce qui départage finalement les livres signés par Martin Page et ceux qui sont signés par Pete Hagerman?
Alors, c'est une question d'intuition. Je pensais ensuite, les livres, ce que j'appelle des Pete, ce sont souvent des... j'en ai fait que deux pour l'instant. Ce sont des livres un peu particuliers qui me reconnectent, je pense, avec mon adolescence. Ce sont des livres de genre. Le premier, c'était un livre de zombies. Le deuxième, c'était un roman de super-héros. Donc, c'était une manière pour moi de faire exister...
Mais là, on est un peu dans Retour vers le futur. Aussi, j'ai pensé au film de Zemeckis.
C'est à la fois Borges
et Zemeckis.
Borges, Zemeckis. Il y a aussi une série que j'aimais beaucoup quand j'étais adolescent qui s'appelait Code Quantum, où il y a un épisode qui ressemble à ça.
Donc on est aussi dans le genre, dans le mauvais genre, pour une émission de France Culture.
Ouais, c'est vrai. Mais ensuite, qu'est-ce qui conduit à utiliser ce double du Pete Hagerman ou pas? C'est vraiment l'intuition, en fait.
Il y a une vraie tendresse. Moi, j'ai eu la sensation de... l'adulte vers l'enfant. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme un appel, justement, de se réunir et d'être fidèle à cet enfant, de lui dire, OK, la vie d'adulte, etc. Mais c'est ça qui compte. Et la liberté où il est, l'enfant, on sent que l'adulte, il a envie de la retrouver, cette liberté. Mmh. Et je pense que cette aspiration, tout le monde la porte.
Il va même plus loin.
Il l'écoute plus ou moins, mais tout le monde la porte.
Il parle d'éthique.
Oui, d'éthique.
L'éthique de l'enfant et de se demander si on n'a pas trahi l'enfant qu'on était.
C'est la base.
Je pense que
la base.
Les enfants sont vraiment... Alors, je suis jeune papa, mon fils a 10 mois, donc nos conversations sont très riches, mais il n'y a pas encore de mots. Mais je trouve que chez les enfants, il y a une éthique qui est souvent très très forte. Je vois ça, par exemple, par rapport aux animaux. C'est très souvent que des jeunes enfants, quand on leur apprend qu'ils mangent un animal, sont vraiment effrayés. En fait, il y a un point éthique, politique chez les enfants qui est très très fort. J'ai un ami qui s'appelle Eric Pessan qui en ce moment fait un atelier d'écriture et qui fait écrire des slogans politiques à des enfants. Et ça donne des résultats. J'ai pas encore vu le résultat, mais
vous nous direz.
Mais selon Eric, il y a des choses très fortes, très belles, très.
C'est une période où on ne transige pas, en fait.
Alors,
on a parlé de Deleuze, je pensais à un autre philosophe, Clément Rosset, dans Le réel et son double, qui expliquait que se créer un double permettait de mettre à l'écart une partie du réel quand celui-ci n'était pas satisfaisant. Il y a toujours une dimension, une visée souvent thérapeutique ou heuristique du double. Martin Page, vous confrontez à un double de vous-même, donc âgé de 12 ans, qui est une forme de manière de prendre conscience du sens de votre vie d'adulte pour revenir à la vie. Et vous, Laurence Nobécourt, je parlais de mise à mort tout à l'heure, mais en tout cas de distanciation, d'abandon, en fait, d'un surnom, d'un pseudonyme d'écrivain qu'on a eu quand même pendant 40 ans, pour essayer de pacifier une forme de passé douloureux. Est-ce que là, dans vos cas, est-ce que la visée curative était programmée, en fait, au moment où vous êtes lancé dans ces deux livres sur le double?
En fait, moi, j'avais trois manuscrits en cours et j'étais bloquée. Et à un moment donné, j'ai réalisé que cette histoire de nom que je récupérais encombrait tous les manuscrits. Parce qu'en fait, j'avais besoin de dire cette chose-là qui est, pour moi, le moment où dans ma vie, ma carapace s'est fendue. Celle qui m'a vraiment aidée à survivre pour me protéger, mais qui m'a également entravée, comme toutes les carapaces, c'est leur fonction. Quelle grâce, merci la vie. ça s'est fendu. Et donc, alors forcément, c'est un certain chaos. Mais quelle merveille de se retrouver soi. Enfin, voilà, cette chose-là. Et donc, du coup, j'ai décidé à un moment donné de me dire, bon, il va falloir que je règle cette affaire. Donc, je vais écrire un texte qui ne s'occupera que de cela. Et je me suis dit, ça fera un livre, pas un livre, j'en sais rien. Je fais ce que j'ai à faire à ce sujet. Et en conséquence, les autres manuscrits se sont trouvés débloqués.
Donc c'était la panacée, finalement.
C'était formidable de pouvoir juste mettre en mots quelque part ça. Et puis finalement, je n'allais pas publier sous Laurence Nobécourt sans expliquer qu'est-ce que je fais là. Quoi. Donc du coup, j'ai...
Et vous, Martin Page, vous parliez tout à l'heure de... parfois de problèmes à régler. Est-ce qu'il y avait une visée thérapeutique aussi, finalement, dans l'écriture de
si
l'art
rappeler,
de revenir à la vie?
Oui,
quand
juste
même,
que thérapeute, l'origine, ça a à voir avec prendre soin de l'être. Donc, c'est vraiment beau, quoi. Voilà, pardon. Hein.
Non, je
c'est bien, on va beaucoup parler d'étymologie, c'est important.
Oui, bien sûr. Et thérapeutique, oui, certainement. Mais alors, moi, j'ai vraiment... la littérature, je demande tout. C'est-à-dire que, évidemment, pour moi, il y a un aspect... non, on ne va pas être modeste. Je ne dis pas que je réussis en tant qu'écrivain, mais en tant que lecteur, dans mon ambition aussi d'écrivain, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, oui, évidemment, thérapeutique, j'écris des livres pour qu'ils soient les meilleurs amis de mes lecteurs, pour qu'ils les sauvent. Enfin, je veux
oui,
pas
mais
un truc
pour qu'ils qu'il les sauvent, mais vous... La question s'adresse à vous. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'on écrit l'art de revenir à la vie, je veux dire, il y a quand même ce titre, pour se sauver?
Ah ouais, évidemment. Évidemment, pour m'apaiser, pour me sauver, pour me donner de l'énergie. Quand je dis que je demande tout à la littérature, bah, c'est thérapeutique, c'est aussi une source de plaisir, de connaissance. Je pense que le champ de la littérature a vocation à tout englober. Il ne faut pas être modeste.
C'est un combat pour la joie, et ça, j'ai tellement aimé ça dans le livre de Martin Page, cette affirmation politique, et je suis d'accord, c'est la joie est une chose fondamentalement politique.
Ouais.
On choisit, et on peut souffrir de plein de choses, mais on choisit la hauteur à partir de laquelle on regarde les situations.
Parfois, on a besoin qu'un enfant de 12 ans... Ouais. Nous le disent, nous le rappellent. Merci à tous les deux. Donc thérapeutique et heuristique. On va plonger dans vos livres. On va commencer avec vous, Laurence Nobécourt. Vous publiez donc Lorette chez Grasset. On écoute d'abord votre choix musical. Vous avez choisi Lucilla Galeazzi, A Vita Bella.
Fatta mezzanotte, dorme la luna. Se fatta mezzanotte, ma era il pieno giorno, di colpo mi si è spenta la luce intorno. Se fatta mezzanotte ed io non so il perché, ma se fatta mezzanotte ed io non so perché, ti piacevano le salsicce ma non le mangi più, ti piacevano le ciliegie ma non le mangi più, ti piaceva fare all'amore a tutte quante l'ore, vita bella perché non torni più, vita bella e perché non torni più, ti piaceva il pane caldo, ti piaceva pasta e fagioli, ti piaceva la tua famiglia, ti piaceva i tuoi figlioli, ti piaceva la festa.
Lucilla Galeazzi, A Vita Bella, c'est le choix de Laurence Nobécourt qui publie Lorette chez Grasset. Pourquoi ce choix musical, Laurence Nobécourt?
C'est le rapport à l'écriture, c'est le rapport à la vie, parce que pour moi les deux se confondent. Il y a à la fois de la douceur, il y a de l'intensité, il y a de l'énergie, c'est à la fois délicat et dense, enfin voilà, c'est comme disait Martin Page, il attend tout de la littérature, c'est le minimum décent si je puis dire, et cette musique-là, c'est un endroit où elle donne envie de vivre, quoi, vraiment. Et puis c'est beau ce qui est dit. Voilà, tu lisais des livres, tu faisais l'amour, et puis la vie s'en va, elle revient pas, mais c'est pour ça qu'elle est belle aussi, quoi.
Ouais. Donc, Vous publiez chez Grasset ce livre, hein, L'Oreille, dans lequel vous donnez à lire ce que j'appelais moi, mais vous êtes contre le... On comprend, parce que c'est un livre de vie, mais je parlais de la mise à mort d'un double.
Oui, oui, hein, j'entends.
Et ce double, mise à mort symbolique, ce double, c'est Laurette, surnom devenu votre pseudonyme d'écrivain pendant presque 40 ans. Et cette mise à mort symbolique permet de mettre à distance un passé douloureux dans l'esprit, dans le corps, hein, aussi. C'est un livre aussi sur le corps. C'est votre premier livre, hein, publié sous votre nom d'état civil, donc Laurence Nobécourt. C'est un récit très court, c'est une affirmation de rupture aussi et de réconciliation à la fois, une profession de foi, vous le disiez, dans l'amour, dans la littérature. Elle se clôt d'ailleurs par une envolée poétique et elle s'ouvre par une citation de Shakespeare très courte, de tirée de Roméo et Juliette, « Qu'y a-t-il dans un nom ?» Pour qu'on comprenne bien Laurence Nobécourt, je vous cite, c'est vraiment quatre lignes au tout début du livre. C'est lorsque je fus appelée Laurette, L-A-U, d'abord R-E-T-E, que mon eczéma est revenu, c'était le sujet de la démangeaison. Je pourrais le jurer, 42 ans d'eczéma. C'est lorsque j'ai choisi de devenir Laurette, L-O-R-E-T-E, que ma mélancolie s'est installée, 25 ans de mélancolie. Donc pour qu'on comprenne bien, comment s'articulent ces deux étapes? D'abord, vous êtes appelée Laurette, puis vous choisissez. Comment ça s'articule?
On m'appelait Laurette, donc L-A-U, R-E-T-E, comme un surnom de Laurence, sachant que ma mère voulait m'appeler Lorraine. Enfin bon, il y a toute une histoire et j'ai retrouvé... mon père vient de mourir, c'est très étonnant, je suis tombée sur le livret de famille et j'ai vu les ratures que j'avais jamais vues, en fait. Donc les ratures, enfin, tout ça démarre quand même avec des problèmes.
Oui, voilà. Surtout et, avec Shakespeare, voilà. S'y a-t-il dans un nom, s'il y a des ratures.
Voilà, et c'est après, en fait, j'ai voulu, au moment, parce que moi j'ai eu une adolescence et une vie de jeune femme, etc., assez chaotique, je trouvais pas du tout le sens de la vie, enfin tout ça ne me convenait pas du tout, et... Je pense que quand c'est rétrospectivement que je lis ça, mais lorsque j'ai choisi de signer mes livres Laurette, donc L-O pour le coup, un petit peu en comme une sorte de clin d'œil en hommage aux Laurettes qui étaient des jeunes femmes de mœurs faciles qui habitaient le quartier de Paris Notre-Dame-de-Lorette, aussi peut-être en hommage à une prostituée que j'ai connue qui a été absolument merveilleuse et qui m'a donné vraiment de l'amour, une femme formidable. Et tout ça, je pense, m'a enfoncée dans une ombre, mais qui a été une façon finalement de survivre étrangement. Enfin voilà, c'est toute l'ambivalence du chemin et le paradoxe.
Et c'est d'abord finalement une décision qui ne vous appartient pas. On vous surnomme,
non, pas du tout.
Parce que Laurence, vous faites beaucoup d'étymologie, même
on est
presque chez Lacan. Laurence, l'idée de
ça, c'est quelqu'un qui m'avait dit ça. Oui,
exactement, quelqu'un que vous, un être aimé en plus.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Oui.
Voilà. Et Lorraine, dont vous parliez, c'est
qui est reine.
Donc
oui,
ça, on est dans la.
Il y a eu toute une histoire et on porte, je pense, comme ça, la langue, c'est comme le sac de Mary Poppins. Hein, vous savez, on peut tout rentrer dans le sac de Mary Poppins, il y a des doubles fonds. Et dans la langue, il y a comme ça des multiples doubles fonds et je pense qu'on entend, le corps entend tout ça et porte tout ça. Et effectivement, à un moment donné, j'ai choisi Laurette aussi par provocation, je pense.
C'est ça, en hommage à ces Laurettes de la fin du 19e.
Oui, et puis c'était une provocation
Nerval, dont parlait
de mon milieu, quoi, et de faire rebelle. Mais, mais mouton noir ou mouton blanc, tout le monde est tondu. Donc en fait,
je voudrais qu'on vous entende lire un passage de Laurette, Laurence Nobécourt. C'est le moment où vous déclarez publiquement en famille que vous allez vous réapproprier en fait ce prénom, de Laurence.
C'est un déjeuner familial chez mes parents. Nous fêtons les 78 ans de ma mère. Il y a là mes deux enfants, ma fille qui vient d'avoir son baccalauréat, mon fils, une de mes sœurs, l'un de ses fils, la grand-mère d'un autre. À l'apéritif, j'annonce que j'ai quelque chose à dire. On me rétorque. Tu vas rentrer dans les ordres? Tu es enceinte? Cela rit gentiment autour de moi et je dis cela. Je voulais simplement vous faire savoir que j'ai récupéré mon prénom d'origine. Voilà, je vais m'appeler de mon vrai prénom, Laurence. On commente, ici ou là. Mon neveu, âgé de 17 ans, découvre étonné ma véritable identité. Ma mère, elle, a aussitôt levé les yeux au ciel. J'entends tout ce qu'elle ne dit pas. Et soudain, je vois distinctement cette chose. Je vois son désir de meurtre sur le féminin. Je vois la lignée maternelle malade et toutes ces femmes qui en ont payé le prix. Et parce qu'elle ne peut pas s'attaquer directement à moi, car avec l'une de mes sœurs nous faisons front contre ce meurtre inconscient depuis longtemps, ma mère s'en prend à ma fille, son unique petite fille, avec une agressivité incontrôlable. Je la vois déborder par elle-même et chaque mot est un couteau qu'elle plante au cœur du féminin. Celui de ma fille, le mien, celui de ma sœur et le sien. En cherchant à nous tuer, c'est son féminin qu'elle saccage, ivre de son propre sang, au milieu d'un carnage psychique où désormais tout se confond. Notre enfance, la violence de mon père, l'argent, l'injustice, les préférences, tout. Une sorte de trouée a lieu ce jour-là avec la vérité de mon nom, et l'ombre de notre famille se trouve dévoilée en pleine lumière.
Merci Laurence Nobécourt pour cet extrait de Laurette. On est presque dans la mythologie, là on est chez Médée, vous parlez de carnage, de lignée maternelle.
Oui, je pense qu'il y a, c'est difficilement encore audible, mais je pense qu'il y a, ça vient de comprendre la nécessité pour les enfants de se séparer de leurs parents, mais réellement. Et qu'en fait, le rapport mère-fille, notamment, est un rapport où il y a énormément de violence. Alors il peut, bien sûr, je suis d'accord avec cette image de la mère qui est merveilleuse aussi. La mère, c'est merveilleux et aussi. Mais quand un individu n'a pas réussi à remettre en cause ses parents à aucun moment que ce soit, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à voir qu'il y a en face de lui des individus et non pas une mère symbolique toute puissante, un père symbolique tout puissant, il est agi par des choses et du coup, tous ces non-dits se retournent contre les enfants et ma mère, avec qui j'ai des relations tout à fait correctes maintenant, de fait d'ailleurs d'avoir pu déposer cette parole d'adulte, elle, c'est un travail qu'elle n'a pas fait, qu'elle ne souhaite pas faire. Et je respecte ça et chacun a le droit d'être là où il l'entend.
Vous dites un travail, comme on peut utiliser ce mot en psychanalyse par exemple, ça, est-ce que la littérature là touche à la psychanalyse quand on...
Oh oui, c'est un outil de connaissance de soi. Ouais. Comme
dans
tout,
ce cas précis.
Tout est bon pourvu qu'on avance et qu'on travaille en effet à se connaître soi-même. Et parce que plus on se connaît, plus on fout la paix aux autres et plus la lumière et l'amour peut circuler à travers nous.
Alors, dans votre livre, les figures du double se déclinent, hein, se catapultent même. Il y a le couple donc Laurence-Laurette, aussi le couple mère-fille, vous en parliez avec votre mère, mais le couple aussi mère-fille avec votre fille.
Oui, bien
sûr. Et même le double corps-esprit qui se laisse deviner. On pourrait parler aussi d'un autre, une autre relation de double, le monde terrestre et le monde céleste.
On va dire. Hein. Oui,
diriez-vous qu'il s'agit toujours au fond du même couple? Parce que je me dis, tiens, c'est étrange, toujours. Toujours, elle s'en tient à ce chiffre de deux, quoi, à ce dualisme.
Alors pour moi, le fait de venir sur la Terre, on est dans le jardin du diable, on est dans le monde de la dualité.
C'est-à-dire celui qui divise encore.
C'est celui
encore
qui divise, exactement.
Diabolus.
Et ouais. Tout l'accomplissement, à mon sens, de l'homme et le trajet de sa vie, c'est d'arriver à dépasser cette dualité pour entrer dans l'unité et se faire un relais, en fait, entre terre et ciel. Et à ce moment-là, c'est l'homme de Léonard de Vinci qui rayonne et qui est absolument sublime. Moi, j'ai une très, très haute idée de l'homme. Enfin, c'est magnifique. Et donc, oui, cette dualité, oui, c'est celle qu'il faut dépasser et embrasser en même temps, c'est ça.
Est-ce que vous donnez cette tâche-là de comment dire ça, d'embrassement, d'embrassade, en tout cas de réconciliation totale. Est-ce que vous donnez cette tâche-là aussi au langage? Parce que ce qui est frappant dans votre texte, c'est que il y a une forte conscience de la nécessité de l'étymologie, en fait, de son caractère indispensable. Vous prenez les mots au sens fort, vous signalez par des italiques dans le texte justement leur origine. Par exemple, quand vous parlez du mot endosser, j'ai compris que par le courage d'endosser mon nom, quelque chose en moi avait guéri. Et là, vous commencez à revenir à Fénelon, endosser au sens où Fénelon l'entend, soit relever la terre du sillon et la déposer grâce au versoir de la charrue contre le sillon précédent. Et vous écrivez, Laurence, c'est un nouveau sillon qui se trace. Parfois, vous empruntez des idées à de nombreuses langues ou alphabets. Vous parlez de la langue des oiseaux.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que cette langue des oiseaux?
C'est la langue de l'alchimie. C'est comment le langage fait œuvre en soi et transforme le plomb en or. Mmh. C'est très ancien, c'est absolument magnifique. Oui.
Alors, est-ce que tous ces langages, le sanskrit aussi, l'allemand, les lettres hébraïques que vous reproduisez aussi dans le texte, quelle tâche à ce langage, quelle importance à cette étymologie? Est-ce que c'est une façon de se réapproprier le nom, de le réincarner magiquement?
Ça embrasse tout, c'est-à-dire que le langage à la fois c'est le lieu de tous les malentendus possibles, de toutes les blessures possibles, et en même temps de tous les miracles. Et donc c'est à partir de là, moi je suis toujours tellement frappée de la puissance de la parole, de sa capacité de faire du bien, de guérir, et inversement aussi de nuire. Mais c'est d'une telle puissance le langage, et on dit que Dieu crée le monde. voilà.
Le logos.
Voilà, le logos, c'est notre puissance de pensée créatrice. On est. Enfin, ouais, moi ça. Comment dire ? Je n'en reviens toujours pas, quoi, de cette force du langage.
Et le nom, c'est incroyable.
C'est incroyable. Nommé, c'est créé. Oui, enfin, c'est incroyable aussi de vivre dans les lettres de Laurence et non plus de Laurette. Mmh. Ça change.
Laurence Nobécourt, vous parlez à propos de ce livre aussi d'une apocalypse de lettres. Hein. C'est à la fois ce livre et puis ce que c'est que l'aventure de l'écriture. C'est une apocalypse de lettres dans son sens étymologique de mise à nu. Aller au bout de soi-même, c'est se mettre à nu, c'est advenir au point de disparaître. Vous avez publié, c'était votre livre qui était paru juste avant, qui était encore signé Laurette Nobécourt,
oui,
sur Hildegarde de Bingen, oui. La grande mystique, la sainte bénédictine du XIIe siècle, hein, qui fait partie d'ailleurs des très rares femmes docteurs de l'Église.
Il y en a quatre.
Ouais. Il y en a quatre. Et pourtant, vous ne cessez au début de... Il y a une lettre aussi hein, dans Laurette, une lettre à votre mère, aussi en italique, hein, au milieu du texte. Vous ne cessez de mettre à distance ce terme de mystique, malgré ce qui sonnait comme une critique à l'égard de ce que tu as qualifié de mystique, écrivez-vous. Pourtant, si on définit le mysticisme comme un rapport à la transcendance, fondé sur une sorte de prescience de l'amour, hein, qui est très important aussi dans votre texte, on se dit que c'est un texte totalement mystique. Alors quel est votre rapport
avec le mysticisme ? Tel que vous le définissez, ça me va très bien. Et pour moi, le mystique, c'est celui qui est relié au mystère. Et donc, en ce sens, il me semble que tout homme est fondamentalement mystique. Mais simplement, c'est la façon dont certaines personnes l'emploient, qui est assez péjorative, avec un côté un peu...
perché, quoi.
Oui, en fait, t'es zinzin, quoi. Mm. Non, je ne suis pas zinzin, voilà. Donc,
Hildegarde de Bingen, elle utilisait un langage secret,
oui, hein,
une langue codée de son invention qu'on appelait...
La lingua ignota.
Voilà. Et du coup, on est frappé évidemment par le rapprochement possible entre cette figure d'Hildegarde et vous. Est-ce qu'elle peut être considérée comme une forme de double d'inspiration pour ce livre?
Oui, c'est vraiment une femme qui m'a énormément apporté, quoi, qui m'a nourrie, qui m'a affranchie. Enfin voilà, je me suis autorisée certaines choses grâce à elle. En écrivant sur elle. Et c'est une femme incroyablement libre, vraiment, qui est en avance non seulement sur son époque, mais sur la nôtre. Enfin,
Évidemment, Laurette apparaît hein, dans ce livre. Vous évoquez la noirceur de la vie de Laurette, sa mélancolie, même ses pulsions suicidaires récurrentes. Je vous cite « Si Laurence ne s'était pas dissimulée dans les jupes à volant de Laurette, Laurette la putain, Laurette la dévergondée, Laurette l'intenable, Laurette la violente, Laurette la malade, Laurette la folle, ma mère, c'est-à-dire la lignée de son féminin blessé, n'aurait pu supporter l'existence du féminin vertical de Laurence et le meurtre aurait eu lieu. Je n'aurais pas pu échapper au suicide qui, pendant plus de 20 ans, m'a hanté presque chaque jour. » En fait, ces histoires de pulsions de mort, ça revient souvent dans l'histoire littéraire quand on parle des doubles. Je parlais en introduction du Orla ou du fameux doppelganger.
Le Orla, oui, c'est pareil. Mais au passant, il a mangé la moquette. Hein, je veux dire,
il était malade, hein, il souffrait de syphilis à l'époque.
Oui, mais on sent bien que moi, j'ai énormément aimé Maupassant. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu, mais jeune. Voilà, c'est quelqu'un qui, à mon sens, n'est pas du tout malade et qui n'est pas du tout fou. C'est simplement l'endroit où il n'a pas réussi à se sauver, à retrouver son son jeune enfant, enfin son double,
se
réconcilier. Oui, voilà, parce que c'est difficile de retrouver son enfant intérieur, de le défendre envers et contre tout, et de se positionner en tant qu'adulte, quitte à déplaire à tout le monde, et en disant voilà, en fait, moi, ce que je ressens, c'est ça, et en fait. Je souhaite être fidèle à ça. Et c'est ce que fait le héros de Martin Page. Et ce en quoi, quand je lis le livre de Martin Page, je sais, comment dire ça, que nous sommes du même camp. Voilà. Et à partir de là, c'est bon, quoi. Enfin,
c'est important, ça, entre écrivains, de se sentir du camp. Et quel serait-il, ce camp?
Ah oui, c'est une bonne question.
En tout cas, je
Martin, sur cette ouais, phrase, ouais. Vous la comprenez? Nous sommes du même camp.
Je suis sûr.
C'est quoi, ce camp?
Alors, moi, parfois, enfin, j'ai l'impression d'être un peu, d'avoir une vision un peu paranoïaque du monde, mais en tout cas, l'idée, le concept de quand, je m'en sens très très proche,
ouais,
je
vois tout à fait ce que... Alors c'est quoi ?
Mais ensuite, l'intellectualiser, le définir, ouais, il s'agit pas de nommer des...
c'est important, le nom, c'est... la vie,
oui, des ennemis, il s'agit pas de...
Ça,
mais intuitivement,
c'est le camp de la joie,
voilà.
mais qui est le...
Une joie combative.
Voilà, qui est pas la joie, on n'est pas chez les bisounours, hein, voilà. On est bien d'accord, c'est pas sucré, ok ? Et parce que celle-là, on la connaît, et elle est terrible, parce que alors l'ombre se cache derrière elle, et c'est pire que tout. Ça pue, ça. Non, c'est vraiment la joie. Voilà, c'est Clément Rosset que vous avez cité.
Deleuze aussi en parle de la joie comme voilà, force c'est, politique.
C'est, oui, voilà, ah. C'est vraiment ouais, le camp de la joie.
Laurence Nobécourt, vous parlez du taoïsme, du bouddhisme, il est question aussi d'hindouisme, d'ésotérisme, de kabbale. À quel point ces philosophies vous ont-elles aidé à opérer ce changement de nom, à opérer cette forme de guérison symbolique passant par le nom, par rapport à nos représentations occidentales ?
C'est un ensemble, en fait. Je dirais, c'est pas seulement ça. C'est une conjugaison de facteurs, comme on dit maintenant. Hein. voilà. Il y a eu ces philosophies, mais comme le reste, il y a eu tout ce qui, de près ou de loin, a soif et cherche quelque chose de l'ordre de la lumière. Quoi.
Voilà. Martin Page, de quelle tradition ou inspiration vient chez vous, justement, cette épiphanie d'un double enfant de vous-même, même de nous-mêmes, hein, qui nous apparaîtrait à la faveur d'un rêve ? Ça puise où ?
Alors, où est-ce que ça puise ? Mon Dieu, il y aurait tellement de sources différentes.
Commençons.
Je pensais tout à l'heure, en écoutant Laurence, il y a un livre de Stephen King qui s'appelle « La part des ténèbres ». Et le livre de Laurence m'y a fait penser. C'est deux livres vraiment, qui sont vraiment très, très différents. C'est l'histoire d'un écrivain qui s'est créé un double très violent. Et à un moment, il décide de se débarrasser de son double. Donc, il organise un enterrement fictif. Mais évidemment, ce double fictif revient se venger. C'est une très très belle histoire.
C'est le fameux doppelganger
ouais,
aussi.
C'est
la fameuse...
ça,
vous en parlez de...
ouais.
Ça serait... vous
Alors
en
le mien, c'est pas un doppelganger. Dans... C'est plutôt justement un double bienveillant.
Bon, c'est quoi doppelganger ?
Jean-Paul,
moi,
c'est un double maléfique.
Voilà.
D'accord.
C'est Jean-Paul à la fin du 18e siècle, donc ça vient évidemment d'Allemagne. Et c'est
doppelganger.
Cette, voilà,
ouais.
Double,
ah, c'est ça, c'est
double
le...
maléfique
okay,
qui caractérise assez bien ensuite bah, tous les romantiques, le Horla. Chez Dostoïevski aussi.
Okay. Ouais, donc certainement cette tradition. Alors, je suis un grand fan d'Oscar Wilde aussi, donc évidemment, ça a compté. Mais non, simplement, c'est aussi le fruit de... Si le double est venu à ce moment-là, et aussi quelques années plus tôt avec cette invention d'un pseudonyme pour des romans de genre, c'est le fruit d'un cheminement intérieur. Parce que je pense, en tant qu'écrivain, on est soumis à des forces sociales. Évidemment, on a des rapports avec nos maisons d'édition, les journalistes, les libraires, etc. On est soumis à des forces sociales violentes. Nos livres sont attendus, critiqués. Et donc, au bout d'un moment, en fait, cette opinion générale sur notre travail, sur nous-mêmes, peut, en tout cas, ça a été ma peur à un moment, peut aussi avoir une influence sur notre travail, sur l'image qu'on a de soi-même. Mais j'imagine que c'est valable dans tous les métiers. La fréquentation d'un milieu social fait que ce milieu social peut déteindre sur nous. Donc, le double, pour moi, ça a été l'occasion d'essayer de me réinventer, de prendre la distance avec mon moi social. Voilà. Alors, j'habite loin de Paris, je fréquente personne, tout ça. Donc, j'imagine que
ça,
les conséquences
le
sont limitées. Mais
vous parlez du double Pete
ouais.
Agamben.
Pete Agamben,
ouais. Ouais, Agamben, pardon.
Ouais.
Je pense à Giorgio Agamben.
C'est ça.
Ou de cet enfant. Parce que moi, cet enfant, j'ai pensé à Nietzsche. Vous évoquez d'ailleurs l'éternel
ouais.
retour. Mais dans Ainsi parlait Zarathoustra, l'éveil arrive quand le prophète devient enfant.
Je
le cite, pourquoi faut-il que le lion ravisseur devienne enfant ? L'enfant est innocence et oubli, un renouveau et un jeu, une roue qui roule sur elle-même, un premier mouvement, une sainte affirmation. C'est assez raccord avec votre livre et le vôtre aussi d'ailleurs.
Niche, c'est vraiment là.
Ouais, c'est très beau. Alors ensuite, pour innocence...
C'est le stade, l'enfant ouais. est le stade ultime de l'éveil. Vous parliez d'innocence
oui.
tout à l'heure.
Ouais, ça me paraît ouais. juste. Ouais. Et surtout rappeler que chez les enfants, en fait, il y a de la connaissance. Alors je suis aussi écrivain pour les enfants et pour les
jeunesse,
adolescents
ouais,
et tout ça, donc
sûr.
Je rencontre pas mal d'enfants. Et aussi rappeler dans ce livre que ce qui a quand même une condescendance assez générale, un mépris assez général vis-à-vis des enfants et des adolescents, et ça m'énerve particulièrement. Mmh. Donc c'est rappeler que chez les enfants et les adolescents, en fait, il y a une grande intelligence, une grande, enfin vraiment le contraire de l'innocence en fait. Ils ont
de l'ignorance.
De l'ignorance,
ouais,
pardon.
Parce que ouais. l'innocence, ils sont quand même innocents. Enfin,
ouais.
Oui,
enfin
bon, moi
bien,
j'aime...
Sûr. Bien sûr, c'est le contraire
c'est
de l'ignorance.
C'est le même mot, Laurence.
Non, mais justement, il y en a deux. Donc
voilà.
quand même,
il y en a deux, ouais.
c'est pas pour
non,
rien.
C'est pas la même chose.
On va entrer dans ce livre avec vous, Martin Page, L'art de revenir à la vie, qui paraît au seuil. On écoute d'abord votre choix musical. Vous parliez de l'enfance. Vous avez choisi Anne Sylvestre, Les gens qui doutent.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques. Enfin,
Anne Sylvestre, Les gens qui doutent, c'est le choix musical de Martin Page qui publie L'art de revenir à la vie. Publié au Seuil. Pourquoi ce choix musical, Anne Sylvestre?
Alors, pour
toute une jeunesse qui surgit.
Bah voilà, pour quatre raisons. Parce que c'est une chanson qu'écoutaient mes parents. Donc voilà, mes parents sont importants dans ma vie, les choses qu'ils ont pu me transmettre. Ensuite, c'est aussi une femme qui a écrit pour des chansons, qui a fait des disques pour la jeunesse. Et voilà, j'en parlais tout à l'heure. Écrire pour les enfants, pour les adolescents, c'est aussi très important. Et j'aime ces artistes, mais c'est le cas de Roald Dahl, c'est le cas de pas mal d'autres auteurs, d'Oscar Wilde, dont je parlais tout à l'heure. J'aime ces artistes qui s'adressent à la fois aux adultes et aux enfants. Ensuite, Anne Sylvestre, c'est un des rares exemples de folk française, une femme avec une guitare qui chante des textes existentiels et politiques. Et
ça fait 5 fois que vous dites le mot politique, c'est bien. Ouais. Ça fait plaisir.
Ah bon, tant mieux. J'ai toujours peur que...
Je pense qu'il y a 4 ou
5 fois.
C'est un mot important pour moi.
Bah
ouais.
Oui,
et c'est l'art d'Anne Sylvestre et politique. Je vois peu de choses qui sont peu politiques d'ailleurs. Ensuite, dans cette chanson, elle défend quelque chose qui me tient à cœur. C'est le ridicule. Enfin, le fait de ne pas avoir peur d'être ridicule, d'être à côté de la plaque, d'être mal vu. Et voilà, ça
de trembler, en fait.
De trembler, d'être mal à l'aise.
Lorette Nobécourt. Alors vous publiez donc au Seuil ce roman, hein, L'art de revenir à la vie. Martin est écrivain, il se rend quelques jours à Paris pour travailler avec une productrice qui souhaite adapter l'un de ses romans. Et chez l'ami qui l'héberge, il découvre une sculpture, hein, c'est de l'art. Ouais. Une sculpture baptisée « Machine à remonter le temps » dans laquelle il est possible de s'allonger. Hein. Il n'y a pas de circuit électrique, mais en tout cas, il y a l'apparence de circuit électrique. Il s'allonge, il dort. Et dans les rêves qu'il fait depuis cette machine, il se trouve confronté à un double de lui-même, âgé de 12 ans. Donc c'est lui à l'âge de 12 ans, dans l'époque qu'il a vécu quand il avait 12 ans. Et à partir de là, la vie parisienne, contemporaine de Martin et la vie en rêve qu'il mène prennent un tour inattendu. C'est servi vraiment par une plume d'une grande clarté. Un humour, mais aussi une bonne dose de mélancolie, je trouve,
oui,
même
sûr.
Si c'est vivant, voilà. Et beaucoup de questionnements aussi sur un moment où, dites-vous, on a 40 ans et où l'on se sent comme un survivant. Je voudrais vous citer, vous lire Martin Page. Quand on arrive à l'âge de 40 ans, une question se pose, en tout cas c'est une question que mes amis et moi, nous nous posons après quelques verres de vin. Comment a-t-on fait pour s'en sortir? On a échappé au suicide, aux accidents et à la maladie. On se sent comme un rescapé. Et dans le même temps, on comprend qu'il faut vivre, travailler et aimer comme jamais. On est un survivant en sursis. Il n'y aura jamais rien de mieux que cet état de fragilité, parce que le contraire de la fragilité, ce n'est pas la force, c'est la mort. C'est tout à la fois déprimant et exaltant. Est-ce que ce roman du double, Martin Page, il doit, au constat que l'écrivain que vous êtes, fait d'un moment de tournant existentiel qu'on appelle peut-être l'âge?
Alors, des tournants existentiels, j'ai l'impression que je n'ai pas arrêté d'en prendre et j'en prends tous les 15 jours.
C'est vous qui le dites là, on a 40 ans.
Et alors, ensuite, 40
le
ans.
Le survivant, quoi, de 40
ouais,
ans.
Ouais, c'est ça. On se rend. Alors, ensuite, je connais des gens
l'âge
qui sont morts.
L'âge que vous avez, Laurence aussi, enfin, c'est le moment que c'est.
C'est vrai que c'est une étape importante, mais en même temps, c'est une étape importante aussi parce qu'elle est vue comme socialement importante. C'est un peu comme l'adolescence. Mais moi, j'ai eu des amis qui ont des gros problèmes et qui ont vécu une chose très grave bien avant d'avoir 40 ans. Mais c'est vrai, d'avoir atteint cet âge, il y a comme un seuil psychologique qui est important.
Le fait de devenir père aussi.
Le fait de devenir père, oui, sans doute. Ouais, le livre est plein de ça, donc évidemment, ça comptait peut-être plus que d'avoir 40 ans. Ouais.
Mais l'idée de survivant, hein, c'est quand on arrive à l'âge de 40 ans, on est un survivant en sursis.
Ouais, c'est vrai. Bah, c'est un monde dur, surtout je pense de gens de ma génération qui, je dis aussi à un moment, pas mal de gens autour de moi, à mon âge ou un peu plus jeune ou un peu plus vieux, ont toujours des boulots d'étudiants. Ouais, je trouve que c'est une époque qui est rude. Donc la survie est une question de tous les instants, de toutes les semaines, d'autant plus voilà, pour un artiste, mais pas que pour les artistes.
Je voudrais qu'on vous écoute lire un extrait de L'Art de revenir à la vie, Martin Page. Et le moment, ce n'est pas la première apparition, mais c'est la seconde, je crois, l'apparition de ce petit homme, ce petit dôme, comme on dit chez Kipling, qu'il était quand il avait 12 ans.
Je suis dans un supermarché. La lumière blanche des néons m'éblouit. Il y a des couleurs partout, des bruits de discussion, de la musique. Troisième sexe par Indochine. Les gens font leurs courses et poussent leurs chariots. Redécouvrir l'année 1987 est émouvant. Je me sens chez moi, j'aime ces couleurs vives. J'aime ces airs de modernité maladroite et kitsch. Je me cherche des yeux. Mon jeune moi est au rayon confiserie. Je m'approche. En me voyant, il sourit. Il parle le premier. Bonjour. Salut. Le silence habituel s'installe entre nous. Puis il dit, je te cherche tout le temps. Et moi, tous les soirs, j'espère que je vais te voir. C'est comme retrouver quelqu'un qu'on croyait mort. Ça donne le vertige. Il me demande comment j'explique ce phénomène de science-fiction. Je lui parle de la machine de Joachim, cet ami sculpteur. Il a l'air de trouver ça rationnel. Il dit, tu crois que ça va finir, qu'à un moment, nous n'apparaîtrons plus l'un pour l'autre? Je pense, oui. Ça me serre le cœur. Je commence à m'habituer à me rencontrer. J'ai l'impression d'avoir trouvé un nouvel allié. Alors profitons-en, dit-il. Je lui dis, désolé de t'avoir dit des choses déprimantes sur l'avenir. On va essayer de trouver des solutions pour que ta vie soit mieux que celle que j'ai vécue. Il me regarde d'un air sceptique. Super. Vois les choses comme ça, tu es Ulysse. C'est la phrase d'introduction au discours motivant que j'ai élaboré avant de me glisser dans la machine de Joachim. Je veux être positif. Après tout, si j'ai réussi à survivre, ça tient à ma combativité. Il dit, Ulysse ? Donc je dois m'attendre à ce qu'un cyclope géant cherche à me tuer, à rencontrer une magicienne retors, des tempêtes et des obstacles mortels? C'est à peu près ça. Génial, dit-il en roulant des yeux et en soupirant. Mais Ulysse gagne à la fin, tu sais, il rentre à Ithaque et retrouve Pénélope. Mais je ne veux pas gagner à la fin. Je ne veux pas 20 ans de guerre et de quête. Ça va être difficile d'y échapper. Il n'y a pas un raccourci? Je n'en ai pas trouvé.
Merci Martin Page, L'Art de revenir à la vie. Donc c'est donc un dialogue entre le Martin Page 2016 ou 2015, je sais pas quand vous avez terminé le livre, et Martin Page âgé de 12 ans. On parlait de Pete Hagerman, votre pseudonyme Martin Page, sur le blog de Pete Hagerman, car Pete Hagerman tient un blog. On lit « Le double est important pour moi, le nom de Pete Hagerman, le masque, tout ça produit des effets passionnants, c'est fertile. » Pour L'Art de revenir à la vie, pourtant vous n'avez pas usé de cette fertilité qu'aurait pu être supplémentaire, qu'aurait pu être Pete Hagerman. Pourquoi, alors que vous auriez pu renforcer encore davantage votre retour à la vie par un jeu sur le nom aussi?
Alors ensuite, je vois ce que vous voulez dire. Ensuite, c'est le fait que ça soit mon nom, soit Martin Page, c'est aussi trompeur. C'est-à-dire que c'est un roman, évidemment. Et que le Martin Page du roman, c'est un Martin Page qui est travaillé par le Martin Page qui n'est pas du roman et qui est écrivain. Donc ce Martin Page est un double, comme Pete Hagerman est un double d'une autre sorte, d'une certaine manière. Sauf que c'est encore plus dissimulé, c'est un double encore plus caché parce qu'il porte le même nom que moi.
Mais alors quel sens justement donner à cette façon de se créer un double littéraire portant le même nom?
Quel sens? Alors moi, j'ai pas, c'est pas parti
vous
comme ça en fait.
Vous raffinez le procédé.
Ouais, c'est un peu ça. Ouais.
C'est le comble du double.
C'est ça. Le comble du double, c'est soi-même. Non, moi, c'est vraiment parti d'une intuition. En fait, il n'y a pas du tout au départ une réflexion philosophique. Non, c'était vraiment une intuition. C'est-à-dire que j'ai des problèmes existentiels, j'ai des angoisses, j'ai des choses à résoudre. Et ma manière de fonctionner pour résoudre des choses, c'est d'écrire des livres, c'est de créer des personnages. Alors voilà, ça a donné à ce personnage qui s'appelle comme moi et qui a 12 ans. Parfois, ça donne, j'ai écrit un livre pour enfants et dans lequel j'ai un dialogue avec un gâteau au chocolat. Voilà, ça fait partie du moment, ça fait partie de l'inspiration.
Alors, le roman se donne à lire aussi selon une intrigue double, hein, puisqu'il y a les rencontres avec l'enfant que le narrateur a été, et puis un film en train de se faire, en tout cas par l'intermédiaire d'une productrice. Enfin, ils font pas vraiment le film, mais en tout cas, ils se voient. Hein, on va pas trop dévoiler l'intrigue. Elle veut, cette productrice, retrouver sa jeunesse pour changer de vie. On cite d'ailleurs Neruda. Vous connaissez ce poème de Neruda? Il meurt lentement, celui qui ne change pas de cap lorsqu'il est malheureux au travail ou en amour, celui qui ne prend pas de risques pour réaliser ses rêves. Est-ce que revenir à la vie, c'est surtout faire revivre le passé?
Je ne sais pas. Ce que disait, je crois, Laurence tout à l'heure, c'est Naître, c'est une ambition, enfin, c'est ce que j'ai compris, naître, c'est une ambition quotidienne, en fait. Grandir et...
Majeur, oui.
C'est tout le temps, c'est pas, on n'est pas enfant, adolescent et adulte, et hop, le travail est fait. C'est-à-dire que, moi, je trouve ça très beau chez cette productrice, que tout d'un coup, elle a quoi, 60, 65 ans. Elle décide de quitter son mari, son copain, elle se pose des questions sur sa vie et elle veut changer de vie à 60 ans. Je trouve c'était important pour moi de créer un personnage justement qui soit pas en pleine jeunesse mais qui prenne une décision existentielle forte.
Comme si elle voulait justement elle aussi retrouver son enfant à elle, quoi.
Exactement,
il n'est jamais trop tard. Ça, j'en suis convaincue.
Bien sûr.
Dernière question, Martin Page. Je parlais de l'humour, je parlais de la mélancolie aussi de ce texte. Vous disiez vous-même que vous étiez un auteur pour la jeunesse. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans ce roman du double quelque chose qui tiendrait du roman initiatique, du récit d'initiation, mais pour les cadras, je vous cite « Mon jeune moi », vous l'appelez votre jeune moi, hein, ce petit garçon, « Mon jeune moi m'inspire, il ne fait pas de concessions, il ne flanche pas, ce qui est magnifique dans la jeunesse n'est pas l'innocence, on y revient, ou l'insouciance, toutes ces bêtises, ce ne sont pas non plus la peau souple et les goûters au chocolat, c'est l'éthique. »
Ouais, ça me paraît très, très, très juste ce que je disais tout à l'heure. Il y a quelque chose de très fort, de très stable, de très solide chez les enfants. C'est assez impressionnant. J'anime des rencontres et des ateliers d'écriture avec des enfants. Ils ont quelque chose d'inébranlable qui est de l'ordre d'une foi éthique. Je dis pas que c'est un paradis, hein, l'enfance, il y a aussi des violences. Mais il y a quelque chose de très, très fort.
Vous l'avez dit tout à l'heure, mais justement, est-ce que ce roman, aussi, dont on ne sait pas d'ailleurs s'il est un roman pour adultes ou pour jeunesse, mais moi je prendrais volontiers le parti d'un roman pour adultes, mais d'initiation en fait, d'accord, paradoxalement. N'oubliez pas l'éthique, la phrase que je viens de citer.
Alors sans doute, c'est un effet collatéral. Ensuite, j'aime bien cette idée de livre pour adultes, pour enfants, ou pour enfants, pour adultes, en tout cas que ça communique.
Exactement.
Moi, je suis ravi quand des enfants ou des adolescents lisent mes livres pour adultes, et je suis ravi quand des adultes lisent mes livres pour enfants, en fait. Il faut que ça communique, en fait.
Voilà, le double, la réconciliation encore. Je voudrais vous poser à tous les deux une dernière question avant de conclure cette émission. Laurence Nobécourt, vous conférez à votre expérience du double une valeur universelle. Vous écrivez « Le travail accompli ici sera celui que les générations suivantes n'auront pas à assumer. En cherchant le vrai pour soi, on le trouve pour tous. » Et chez vous, Martin Page, une défense de l'imagination et de l'art comme moyen de donner du sens à la vie, et je vous cite, « Je n'aimerais pas être à la place de quelqu'un qui pense que les livres ne changent pas la vie. J'écris pour essayer de sauver les autres, même si vous rectifiez modestement. Non, je rectifie. J'écris pour me sauver moi-même. » Est-ce que vous encourageriez tous les deux, celles et ceux qui nous écoutent, à trouver et interroger leur propre double, en disant que vous commencez le travail, mais il faut que chacun le fasse? Laurence Nobécourt.
Oui. Ah oui, oui, vraiment. Je crois que devenir qui l'on est, comme disait l'autre, devient qui tu es, Nietzsche, encore lui, notre ami, bon camarade de jeu, c'est un travail. Enfin, je veux dire, ça ne tombe pas du ciel et c'est un combat et c'est la tâche de l'homme et c'est juste magnifique.
Martin Page.
Ouais, évidemment, il faut travailler vers soi. Alors, ceci étant, je suis vraiment très précautionneux parce que je ne me vois pas donner des conseils de vie, surtout que c'est ce cheminement, enfin, aller vers soi, ça peut avoir des conséquences qui peuvent être, je trouve, très lumineuses, c'est important, mais ça peut être douloureux aussi.
La dimension apparemment personnelle de chacun de vos livres, et en même temps sa portée universelle, vous le disiez, on le trouve en cherchant le vrai pour soi, on le trouve pour tous, Laurence Nobécourt. Et quand vous dites, voilà, faut pas oublier l'éthique de l'enfance, on a l'impression aussi d'une portée qui dépasse simplement le dialogue Martin Page, 41 ans, Martin Page, 12 ans.
Ouais, j'espère. Ensuite, c'est au lecteur de le dire, mais c'est vrai que je peux pas le penser, moi, ça serait arrogant de le penser directement comme ça.
Eh bien, on laissera nos auditeurs, nos auditrices se faire penser par eux-mêmes et essayer de devenir ce qu'ils sont. Merci.
Merci beaucoup
à tous les deux d'avoir participé à ce temps des écrivains consacré au double motif topos antique, qui est pas seulement romantique aussi et contemporain, on l'a vu, qui fonde les deux livres dont nous avons parlé cet après-midi et dont je rappelle les titres. Martin Page, L'art de revenir à la vie, c'est publié au Seuil, et Laurette par Laurence Nobécourt, c'est publié chez Grasset. Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, Anne-Laure Chanel, avec la complicité bienveillante de Julie Moucheron. À la technique, c'était Michel Mestre. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr. 7h avec Laurence Nobécourt et Martin Page. Merci encore. Je vous retrouve dès lundi pour le Temps des libraires à 10h55.